Je suis Céline Cortin, je suis musicienne intervenante donc à Saint-Brieuc Armorat Agglomération. Et moi, je suis à la base, je suis saxophoniste, instrument que j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Et ben maintenant, avec ce métier-là, j'ai développé d'autres pratiques qui sont l'accordéon, des percussions brésiliennes en batucada, le chant. On est tous un peu chanteurs, en fait. Voilà. Et donc, je travaille sur le secteur depuis 2008. Donc, ça fait 13-14 ans à peu près. 14 ans, voilà, que je suis par là, après avoir fait la formation au CFMI.
Où ça?
Au CFMI, à Rennes. Le CFMI de Rennes. D'accord. Voilà, en 2006-2008.
Cette formation de CFMI, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est quoi sa particularité? CFMI, ça veut dire quoi?
Alors, CFMI, ça veut dire Centre de formation des musiciens intervenants. Donc, des musiciens intervenants à la base, surtout dans les écoles primaires, maternelles et élémentaires. Après, elle n'est pas exclusive, c'est-à-dire qu'elle peut nous former pour intervenir en petite enfance, en milieu spécialisé, avec les personnes âgées. Voilà, elle s'est vraiment ouverte sur plein d'autres publics. Et c'est une formation dans laquelle on rentre quand on est déjà musicien, en fait. Elle est ouverte à des gens qui ont déjà un certain niveau musical, que ce soit des gens qui viennent d'une formation classique avec lecture, partition, apprentissage d'une musique, voilà, qui viennent par exemple du conservatoire, ou des personnes qui sont plus en musique traditionnelle et qui vont avoir une formation à l'oral. J'avais dans ma promotion des gens qui lisaient très très peu la musique, en fait. Voilà, c'est parce que la formation, elle s'enrichit justement de tous ces parcours différents qui se retrouvent. Elle accueille 20 musiciens à peu près chaque année. Donc chaque CFMI va accueillir à peu près 20 musiciens et qui ont tous des profils très différents. Donc on est formé par les enseignants qu'on va avoir, par les stages, mais on se forme aussi entre nous par ce partage.
La formation dure combien de temps?
Elle dure 2 ans. Alors c'est la... Il y a une formation de base qu'on fait 2 ans en vraiment temps plein. Après, il existe aussi des cursus pour des gens qui sont déjà en poste et qui peuvent le faire, alors si je ne me trompe pas, sur 3 ans, mais qui travaillent et qui ont des journées, des temps de formation. Voilà, il y a plusieurs approches. Et il y a aussi, je crois, certains CFMI qui proposent des formations complémentaires, une troisième année... sur la petite enfance, je crois qu'à Tours, ils ont une formation comme ça. Et à Célestat aussi, je crois.
Qu'est-ce qui t'a amené à devenir musicienne intervenante?
Alors, je suis musicienne. Donc, j'ai commencé la musique quand j'étais enfant, le saxophone à 10 ans. Voilà, beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer dans un big band, plutôt en musique jazz, voilà, improvisée, en soirée, tout ça. Ça faisait vraiment partie de ma vie. Et j'ai un ami dans le big band dans lequel je jouais qui était musicien intervenant et qui m'a dit « Ah, je te verrais bien faire ça ». Moi, je faisais par ailleurs de l'animation sur les mercredis, en centre de loisirs, sur l'été aussi, sur des colos. Et c'est vrai que ça, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit « Ah, ça ferait vraiment relier ces deux aspects, ma propre pratique et puis mon travail avec les enfants ». J'ai tenté une première fois en échouant au concours. Donc, parce qu'il y a un concours d'entrée qui est quand même assez sélectif. Et puis, je pense que c'était une bonne chose parce qu'à l'époque, je n'étais peut-être pas prête à accueillir cette formation. J'avais peut-être encore besoin de vivre d'autres choses. Et du coup, je suis partie vers l'animation socioculturelle. J'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans. Et avec une frustration qui grandissait parce que à chaque fois, je voulais mettre de plus en plus de projets musicaux dans mon cadre d'animation. Sauf que je me sentais très limitée au niveau des compétences. Donc, à un moment, j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat et de repartir vers cette formation, voilà, du CFMI. Et donc pour moi, voilà, c'est vraiment un épanouissement. C'est une passion qu'on peut vivre dans son travail. On a quand même, il y a pas tant de gens que ça qui ont la chance de travailler dans une passion. Et puis qu'on peut transmettre à d'autres, et quand on voit l'impact que ça a sur les autres, sur les enfants, comment ils reçoivent ça et la joie qu'ils ont, On se dit que bah, c'est très, très plaisant à faire.
Pourquoi c'est important la musique dans une vie, à ton avis?
C'est important bah, parce que c'est déjà un moyen d'expression, voilà, qui est autre que la parole. Un moyen de rencontrer des gens. Surtout bah, quand on joue aussi, des fois on oublie en fait. Quand on est pleinement en train de jouer de la musique, on oublie tout ce qu'il y a autour et on va être juste dans les sensations, on se reconnecte un peu à qui on est, à nos sens. C'est vrai que moi, c'est l'effet. Moi, je suis beaucoup passée par l'improvisation, en fait. Jazz et musique totalement improvisée. Mais que ce soit dans cette pratique ou par exemple, je fais de la batucada et quand on est en train de jouer dans la rue et tout, il y a beau avoir plein de gens autour. Hein, en fait, on est dans une bulle un peu, voilà, donc qui est très, très intense. Et je vois dans les enfants qui pratiquent aussi, des fois, j'ai eu que je fais un atelier de découverte d'instruments et où on improvise aussi. Et puis, des fois, il y a un enfant qui continue à improviser, les autres sont arrêtés. Et il reste et il se rend pas compte qu'il est tout seul encore à jouer, qu'il y a plein d'enfants, qu'il y a encore les enfants du groupe autour qui écoutent et il est complètement parti ailleurs, quoi. Voilà, c'est un voyage en fait, la musique. L'importance de la musique, j'aime beaucoup voyager aussi. Quand je voyage, j'essaye d'emmener aussi mon instrument avec moi. Donc, bon, je suis partie sur des instruments plus petits que ceux que j'avais à l'origine pour pouvoir voyager un peu avec. Et c'est vrai que quand on arrive quelque part, mais que soit à l'étranger ou en France ou autre part, quand on arrive avec un instrument, c'est tout de suite, on est connecté aux autres. C'est une porte ouverte et voilà, on peut créer des liens très très facilement et on est accueilli.
L'instrument, ça connecte. Mm. La musique aussi. Et alors, tu peux parler des projets auxquels tu as participé ou que tu as accompagné récemment? Des exemples de projets que...
Projets en intervention scolaire. Alors, j'ai parlé par exemple de la batucada. Moi, c'est une pratique donc percussion brésilienne que je mène avec des adultes. Mais avant de le mener avec des adultes, j'en ai monté dans des classes. Où là, ça va être ça va être du travail du rythme. Donc, on apprend avec l'enfant à travailler la pulsation, jouer un rythme dessus, écouter un rythme et en jouer un autre. Pour ce type de projet, c'est vrai qu'on a investi, nous, dans pas mal de sets d'instruments parce que finalement, ça a fait un peu boule de neige et qu'on est de plus en plus dans l'équipe à pouvoir mener ce genre de projet, hein, donc avec des sets d'instruments. Tout à l'heure, Lila disait on intervient souvent avec des objets qu'on détourne, mais on a aussi des sets de vrais instruments mais qui partent plus souvent sur de la percussion parce que c'est plus directement accessible pour les enfants. Et donc là, on va monter dans une classe un ou deux morceaux qu'on va pouvoir faire en déambulation, par exemple, sur un projet qu'on a monté qui s'appelle Fanfaronon, qui est destiné justement à jouer en extérieur. Donc la batucada s'intègre bien dedans et on va aller jouer dans la rue avec les enfants sur une déambulation.
Si je comprends bien, y compris ce que tu as décrit tout à l'heure, Lila, l'objectif, c'est vraiment l'accessibilité à la musique et se défaire de la contrainte que peut être l'instrument quand il nécessite une technique, c'est ça?
Le but n'est pas de mettre les enfants en échec. Le but, c'est de leur faire découvrir qu'ils sont capables de faire des choses peut-être qu'ils n'imaginaient pas, et puis de les former. Et le plaisir, il va venir de deux choses. Il vient parce qu'on va faire quelque chose qui au début paraît difficile, et on se dit, j'ai surmonté quelque chose que, voilà, je ne savais pas faire ça, maintenant je sais le faire. Et puis, et le plaisir, il vient quand on n'est plus après trop dans la difficulté. Une fois qu'on a surmonté la difficulté, le fait de maîtriser et de se sentir libéré, on n'a plus le stress et on peut jouer en étant connecté aux autres, du coup, justement. Alors que quand on a la contrainte technique d'un instrument, c'est quelque chose qui va nous fermer, en fait, au moment où on est dans contrainte technique. Et une fois qu'on s'est libéré de ça, on peut s'ouvrir et c'est là qu'on peut commencer à prendre plus de plaisir encore.
C'est quoi la musique pour les publics auprès desquels tu interviens? C'est quoi leur perception de la musique? Ils sont familiers à la musique? Ils, ils, ont, Disons une pratique instrumentale ou plutôt pas, comment, c'est quoi la relation à la musique?
Bah, tous les enfants, je pense, ont un univers musical. Enfin voilà, la musique, elle est partout. Hein. Les parents écoutent de la musique, on en entend dans le bus, on en entend. Après, je sais pas trop, en fait, c'est vrai que ça fait. C'est pas évident. Bon, en fait, donc voilà, les enfants vont avoir des artistes qu'ils connaissent. Quand on demande dans une classe, par contre, qui fait de la musique, c'est vrai que nous, en école primaire, il y a très peu d'enfants qui pratiquent la musique en dehors de l'école, parce que souvent, quand on commence un instrument. Alors, pardon, il y a l'éveil musical qu'on peut commencer assez petit, mais vraiment la pratique d'un instrument, ça commence autour de 9-10 ans. Et c'est les dernières années dans l'école primaire. Donc, nous, dans la plupart de nos classes, on a très très peu d'enfants qui participent. Et après, ça peut être des fois 3 enfants dans la classe qui participent, qui pratiquent déjà un instrument. Des fois, on va s'appuyer d'ailleurs dans certains projets, on essaye de pouvoir valoriser un enfant qui a une pratique, qui va jouer de la guitare ou du violoncelle, et si on peut l'intégrer à ce qu'on fait avec la classe. Alors, soit ils viennent juste faire une présentation, mais des fois, dans des projets de création, on a pu vraiment intégrer un enfant qui va jouer une mélodie, qui va venir, ou qui va aussi détourner son instrument, qui va l'utiliser d'une autre manière que celle qu'il a l'habitude de l'utiliser quand il est en cours à l'école de musique, quoi.
Et ces interventions-là, elles se font en partenariat, en lien avec des personnes, qui sont des personnes de renfort pour toi, dans les classes, par exemple, un enseignant. Comment se passe la relation globalement avec le monde de l'éducation nationale?
Alors l'enseignant, déjà, il est partenaire. L'idée, c'est quand même qu'il puisse aussi porter le projet. La plupart du temps, on demande quand même à l'enseignant vraiment de réfléchir avec nous, pendant la séance, d'être présent et de faire avec les enfants. Des fois, il y a des enseignants, on va même pouvoir les amener à diriger le groupe ou à amener vraiment des idées. Il y a des enseignants qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Donc des fois, ben, on va aussi les chercher. On les force jamais. Il y a des enseignants qui vont pas participer. On le regrette, mais c'est comme ça. Par contre, il y en a qui vont au début pas oser, puis on va aller les chercher. Et je crois qu'ils vont aussi prendre le plaisir à se mettre au même niveau que les enfants, en fait. Et c'est très très important pour les enfants que l'enseignant participe de cette manière-là, parce que l'enfant, même si Lila disait tout à l'heure que ils ont pas de barrière, tout ça, ils y vont comme ils y vont. Hein. Mais voilà, on leur demande quand même un effort de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et s'ils voient l'enseignant qui lui dit, oh ben non, moi j'ai pas envie de faire, ça peut être plus dur pour certains enfants les embarquer. Alors que si l'enseignant participe aussi, ben, il crée une relation différente avec l'enseignant de celle qu'il a en classe habituellement avec lui. Hein. Et il y a des enseignants qui sont vraiment très très. Qui vont vraiment faire du lien en classe à côté, qui vont vraiment prendre le projet qu'on a construit ensemble en main et qui, en lecture, en expression corporelle, en sport, en découverte du monde, ils vont vraiment tisser plein plein de liens pour donner une résonance au projet.
Super, merci. J'ai une toute dernière question, mais plutôt off. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur vous en tant que musicien intervenant? Je vous ai dit que j'allais faire
Ah
l'enquête
oui.
au niveau national, je suis en train de construire le questionnaire. Qu'est-ce qui mérite d'être éclairé à votre avis? C'est une question pas facile, forcément. Enfin, puis je ne vous demande pas de faire le boulot à ma place non plus,
Non, 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 mais
mais
c'est.
je pense important de. J'aime bien l'idée d'associer un peu les musiciens intervenants aujourd'hui sur cette question-là.
Bah, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que. Tu trouves ça important de montrer que c'est que voilà, il y a des contraintes et mais c'est pas si difficile que ça à faire finalement. Par exemple, de mettre nous, on sait qu'ici on a une chance sur notre réseau de musiciens intervenants d'avoir le temps, par exemple, justement d'avoir passé nos séances à 1 heure, de pouvoir. On ne nous demande pas une quantité. On a un cadre d'emploi qui nous permet
d'avoir le temps de jouer ensemble avec les musiciens intervenants sur les séances des autres et tout ça. Et je sais pas, je me dis, quand tu vas rencontrer les autres, je pense pas que les autres musiciens intervenants aient cette chance-là. En tout cas, nous, les retours qu'on a du département, c'est que y a beaucoup de musiciens intervenants qui croulent ils courent après les séances tout le temps. Et je pense que de mettre en lumière le fait que c'est pas parce qu'on, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas parce qu'on fait plus de séances qu'on apporte plus, ouais, c'est ça. Parce que là, le fait d'être vraiment un réseau et de travailler en équipe et d'être plusieurs, parfois une séance, c'est vrai qu'on paye 4 personnes du coup pour une heure de séance, et je comprends bien que dans les chiffres, ça peut en faire devenir fou plus d'un, mais c'est un apport hallucinant pour les enfants.
Puis c'est pour les enfants, mais c'est un apport pour nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont aussi un peu isolés, ils sont tout le temps, même s'ils sont dans une équipe, ils sont tout le temps tout seuls dans leurs séances, tout ça, et au bout d'un moment, on se renouvelle, enfin voilà, même si on cherche des idées, tout ça, on commence à tourner dans nos propres schémas, alors que nous, la manière dont on fonctionne là, c'est... On voit sans arrêt les collègues intervenir, on échange, on est vraiment en travail d'équipe, et on se renouvelle et on apprend tous les jours, comme si on était en paix au CFMI en continu, quoi, ouais, entre guillemets, mais voilà. C'est vrai que c'est depuis qu'il y a ce fonctionnement-là, c'est assez riche, et je pense que ça permet de conserver peut-être plus longtemps le goût du métier, de pas s'ennuyer, de pas...
Ouais.
Même si on ne s'ennuie pas pour autant, mais voilà.
Et, on ne s'use
pas. Et pour les enfants, effectivement, des fois, on fait juste... quand y a les, tu parlais des concerts partagés, donc les temps forts qu'on propose où il y a une classe et puis 3 musiciens qui viennent, le retour qu'on a des enfants et des enseignants est assez énorme. Donc, ce temps-là est important. Ouais. C'est vrai que moi, je n'aurais pas du tout, si on me proposait d'aller travailler toute seule sur un territoire, toute seule dans ma commune, je ne tiendrais pas forcément très longtemps, je pense. Enfin,
ça ne répond pas vraiment à ta question de qu'est-ce qu'on voudrait... Non, plus, je n'ai pas répondu à la question parce que je n'avais pas vraiment...
Mais c'est savoir quels sont les...
Je pense que tu vas, rencontrer beaucoup de formats. Ouais.
Et les modes de calcul des formats, de combien d'heures tu fais, tout ça, c'est tout.
Ouais, il y en a pour qui le temps de route est compté dans le temps. Nous,
c'est un flou artistique.
Mais je pense que les CFMI, ils aimeraient remettre ça vraiment à plat et tout, mais
En train de travailler là-dessus.
Ils sont en train de travailler là-dessus, mais c'est comme des habitudes prises dans des collectivités sur lesquelles ils n'ont pas de prise, justement, ils n'ont pas de... Et nous, je pense que y a des contraintes dans le métier. C'est vraiment un métier chouette au niveau rapport humain, ce que ça nous apporte, ce que ça apporte aux enfants, tout ça. Mais on charge quand même des voitures tous les matins, on les décharge tous les soirs, on fait de la route, faut qu'on achète tous des grosses voitures parce que sinon on n'arrive pas à faire rentrer nos instruments. Il y a quand même des contraintes dans le métier, mais justement, le fait d'avoir un cadre d'emploi qui est... Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien il y a de personnes qui sortent du CFMI puis qui font ce métier-là jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Parce que c'est un métier énergivore. C'est riche, mais c'est ça. C'est... Même quand on est en séance, c'est pas pareil que quand on est au bureau, nous, en coordinatrice, là. C'est pas pareil quand on est en séance, que tu dois préparer, que tu as genre à chaque fois un petit stress, tu te dis est-ce que j'ai bien
j'ai pas fini de travailler mon morceau,
c'est ça.
Demain.
Non, c'est
ça, tient cette exemplarité que tu soulignes là.
Il y a plusieurs choses, je pense, qui ont joué, mais ça a démarré à un moment donné où justement c'était le début des agglos, des compétences culturelles dans les agglos et tout ça. Et il y avait comme une émulsion avec ça. Et je pense que l'ancienne présidente de l'agglo, Armelle Botorel, C'est elle qui a, elle s'est battue corps et ongles, elle a convaincu tous les élus que c'était hyper important. Et voilà, mais et je pense que ça, ça a joué sur le fait que de la représentativité, comment on a réussi à mailler un peu tout le territoire. Parce que là, par exemple, on a eu, y a eu les élections municipales, donc là, il y a 2 ans, et il a fallu qu'on re-rencontre tous les élus de chaque commune de l'agglo. Et l'année dernière, et c'est vrai qu'il y en a, bah, ils ne savent pas trop, ils ne connaissent pas, alors que c'est des élus, et voilà. Mais il y a aussi le fait qu'on soit, on est embauché par l'agglo, mais les communes payent une partie de notre, payent la moitié de ce qu'on coûte, grosso modo. Donc c'est vraiment un partenariat aussi financier. Du coup, quand on arrive et qu'on demande une salle de spectacle ou un technicien ou quoi, bah, ils savent pourquoi, ils savent qu'on est là, ils savent que c'est pour les enfants de leurs écoles et qu'il y aura peut-être des enfants des écoles environnantes, des communes environnantes aussi. Mais c'est ça, tout ce travail-là, ça. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que les élus, quand même, nous ont suivis. Il y a une volonté politique, en fait, indéniable.
Ben, c'est parti, forcément, d'une volonté politique pour créer ça. Mais voilà, ça ne s'est pas fait tout seul.
Et notre ancien coordinateur, qui avait été d'abord coordinateur à Pluck, justement là où il y a Marc, il avait bossé beaucoup avec Marc, il avait vraiment aussi une vision de... Il y a des gens comme ça qui ont des visions de territoire, de comment faire pour que ça fonctionne et que ça s'articule bien et que ça, et sans trop, parce que quand on a eu donc toutes les communes de l'agglo qui se sont rassemblées pour faire la grosse agglo à 32 communes, eh ben, la question était, est-ce qu'on garde le même nombre de musiciens intervenants qu'on a et on les répartit sur toute l'agglo, sur toutes les communes, ou est-ce qu'on recrute du monde pour garder un parcours. Donc il avait fait 3 parcours, donc le parcours qu'on a là maintenant, c'était celui du milieu, grosso modo, la moyenne. Mais c'est ça, il a pas descendu trop, et les élus ont suivi aussi financièrement. Parce qu'il y avait déjà eu un travail qui avait été fait aussi, ils voyaient les élus que...
C'était déjà sur le territoire.
Ouais, aussi. C'est ça, ça existait déjà. Je sais pas si tu arrives sur un territoire vierge, comment c'est pris, parce que c'est de la dépense brute. Hein. On a zéro rentrée.
T'as pas de retour, zéro. Ouais, c'est ça.
C'est pas comme une école de musique où ils essayent que ce soit un minimum rentable ou je sais pas quoi. Nous, c'est cadeau, quoi. Mais je pense que ça a vraiment des retours, des impacts sur le territoire. Mais ça, comment les mesurer ? Je sais pas trop.
Ouais, c'est ça va être ton travail.
C'est un chantier qui n'est pas... qu'on commence, du coup.
Ah ouais.
C'est beau, c'est passionnant.
Ouais, ça doit. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, j'imagine, de voir les impacts que ça a sur un territoire.
Ouais, bien sûr. On se pose là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la musique. On se pose sur la question de la lecture, on se pose sur la question du théâtre, sur la question de la danse, sur la question du patrimoine aussi.
Mais c'est vrai que ce serait bien que dans les autres domaines, il y a aussi un peu comme ce qu'il y a en musique. Quoi. Ouais. Parce que nous, c'est quand même confortable. C'est-à-dire qu'on a pu à repasser un agrément à chaque fois qu'on intervient et tout. Voilà, c'est validé, quoi. C'est bon, on y va. Pour les projets dans l'autre domaine, c'est quand même beaucoup plus lourd.
Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même... tu vois, quand on parle d'artistes en séance et tout ça... moi, par exemple, qui joue dans une autre compagnie, et quand je vais voir les salles de spectacle pour essayer d'avoir une résidence ou quoi, ils ont toujours, ils me connaissent comme musicienne intervenante, et le fait qu'ils sachent que je suis musicienne intervenante, eh ben, pour beaucoup de personnes de salles de spectacle, je ne suis pas complètement artiste. Tu vois, il y a quand même une dichotomie entre les deux. Le fait d'être pédagogue ou d'avoir envie de transmettre, ça veut dire que tu n'es pas complètement artiste. Et ça, je le ressens vachement dans tous les retours qu'on a, que ce soit des demandes de subventions, qu'on fait des dossiers ou bien des demandes de résidence. Ah oui, mais ça ne va pas être compatible avec ton métier. Non, mais parce que moi, je suis à mi-temps, en fait, ici à l'agglo pour essayer de jouer plus à côté. Et, mais je dis, mais en fait, ça me regarde, moi, si c'est compatible ou pas. Mais je ne sais pas, il y a comme un truc qui fait... Et moi, c'est quelque chose qui me questionne aussi, ça. Le fait de... Si t'as envie... Alors que, justement, ça s'enrichit, les deux s'enrichissent. Ouais. Et pourquoi c'est pas aussi légitime de vouloir transmettre que de vouloir créer.
Cette tension est intéressante. Certains la vivent comme une vraie tension, mais au sens j'ai moins le temps d'être artiste.
Ah oui.
Ça
c'est vrai. Hein,
moi,
ouais.
Ça l'est. Hein. Moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais que à mi-temps pour justement faire des projets à côté. Et puis petit à petit, ça a été grignoté. Et là, récemment, j'étais sur un temps plein entre mon métier là, mes écoles de musique. Et c'est vrai qu'il y a une frustration parce que de plus avoir trop de vrais projets à côté, ça manque. Et en même temps, des fois, je me dis, il va falloir que j'abandonne des projets. Et en même temps, tout ce que je fais en intervention, je trouve ça trop trippant.
Bah oui, c'est ça.
Je me dis, bon, alors si je lâche quelque chose, qu'est-ce que je lâche? Ah, mais ça, c'est trop bien.